Abordons les journées du patrimoine, les journées européennes du patrimoine 2025 et particulièrement sur la commune de Saint-Jean-en-Royans avec le concours de l'association Royan d'hier et d'aujourd'hui, bien représentée dans le studio de Radio Royan Vercors, puisqu'autour de moi, nous allons avoir différentes strates de ce qui va se dévoiler ces 20 et 21 septembre 2025 sous l'égide de la présidente de l'association Marie-France Faure. Bonjour Marie-France.
Bonjour Patrice.
Alors on va découvrir en votre compagnie et bien sûr aussi tous ceux qui sont autour de vous, nous au fur et à mesure découvrons ce qui va occuper justement donc les esprits des différents protagonistes à propos de votre thématique cette année qui concerne a priori Saint-Jean-Royans particulièrement.
Tout à fait, qui concerne Saint-Jean-Royans parce que c'est quand même la ville la plus importante du Royan, mais qui concerne quand même tout le Royan. Nous avons voulu cette année parler de Saint-Jean-Royans, des thèmes qui n'ont jamais été abordés jusqu'à présent. Alors nous avons Gérard qui a étudié une dizaine de maisons remarquables de Saint-Jean-Royans. Nous avons ensuite Jean-Marie qui nous parlera de l'Hôtel Dieu, que tout le monde connaît, mais on se pose beaucoup de questions sur cet Hôtel Dieu. Alors, de l'Hôtel Dieu jusqu'à l'EHPAD d'aujourd'hui. Rémi, lui, nous parlera de l'eau potable sur Saint-Jean-Royans et je parlerai aussi de la maternité sur Saint-Jean-Royans. Et cette année, exceptionnellement, nous aurons une exposition qui sera accompagnée d'une exposition de peinture. C'est Oui, Paul, qui oui. Nous en parlera tout à l'heure.
Donc, Saint-Jean-Royans, différentes strates historiques, des pans patrimoniaux méconnus, et puis l'histoire qui se révèle un petit peu plus.
Oui, c'est surtout intéressant parce que on dit Saint-Jean-Royans, bien sûr, mais autant la Maison Dieu, l'Hôtel Dieu, l'EHPAD, la maternité concernait quand même tout le Royan.
Bien sûr.
Alors, c'est à la fois que sur Saint-Jean, mais c'est en lien avec toute la région Royan.
La petite capitale du Royan, Saint-Jean-Royan, avec ses différents marqueurs historiques que nous allons découvrir, avec un petit peu des amorces de part et d'autre. Hein, c'est bien cela?
Oui.
Par quoi débute-t-on?
Alors, on va faire un petit résumé de tous nos thèmes, on ne va pas détailler. Alors, sur les maisons, Gérard s'est intéressé à une dizaine de maisons. Je vais simplement citer les maisons, sans détail. Hein. Et alors, il s'est intéressé au le Clos Lamberton, qui est situé au Champ de Mars de Saint-Jean-Royans. La boulangerie, qui est à la rue de la République de Saint-Jean-Royans. La pharmacie, qui est à la place de l'église, la maison de la paroisse ou maison grand, qui est aussi sur la place de l'église. Il a aussi travaillé sur une maison bourgeoise qui était l'ancien centre de soins à rue Fontaine-Martel. Il a travaillé aussi sur la maison du docteur Guilla, qui est l'ancienne laiterie de Saint-Jean-Royans, rue Pasteur, Saint-Jean-Royans. Une maison, la maison Chuilon, rue Pasteur. Bien sûr, la mairie et les écoles. Une maison qui, cette fois, nous allons vers le haut de Saint-Jean. La maison Ollier, rue Jean Jaurès. La maison Jean Reynaud, rue Jean Jaurès. Et, pour terminer, le domaine de la Paz. Voilà, il a étudié surtout... la généalogie des habitants successifs de ces maisons.
Des maisons que l'on croise tous les jours et on ne soupçonne pas toute l'histoire qu'il y a derrière.
Tout à fait.
Voilà pour ce qui concerne les maisons, on pourrait dire remarquables de Saint-Jean-en-Royans.
C'est Gérard Clément.
Gérard Clément. La parole, le micro est maintenant tendu vers Jean-Marie pour parler bien plus d'un cadre de vieillissement, de structure,
oui,
d'institution.
Bonjour. Donc, nous allons montrer le cheminement qui mène de l'Hôtel Dieu, que beaucoup de gens connaissent par le nom, mais qui ne connaissent pas bien par sa place dans l'histoire des retraites, jusqu'à l'EHPAD actuel où nous finirons peut-être un jour. Alors ça couvre à peu près cette période deux siècles et demi, à partir de 1741. Il faut dire qu'au début des années 1700, à l'initiative du curé de Saint-Jean et de quelques paroissiens charitables, deux bâtiments du bourg, dont une ancienne écurie, furent aménagés pour héberger des enfants dont la moitié n'avait pas de 10 ans. On appela cet endroit la Providence, mais ça n'a rien à voir avec la Providence actuelle de Saint-Laurent. À la Providence, le rythme des journées était calqué sur celui des couvents de l'époque. Les jeunes pensionnaires passaient leur temps à l'étude, à la prière, au travail de la laine pour subsister. En 1741, l'Hôtel-Dieu est créé. Il est situé à proximité immédiate de la mairie de Saint-Jean, dans une grande maison qui a été cédée par le drapier Jean Chouillon. Il est destiné à héberger les pauvres de la région. Dès sa création, l'Hôtel-Dieu a accueilli une dizaine de pensionnaires. À la veille de la Révolution, la petite institution de la Providence a quitté ses locaux primitifs et a intégré l'Hôtel-Dieu. En 1790, les résidences sont expulsées par les troupes révolutionnaires qui souhaitent occuper les lieux. Alors, il y a eu la tourmente révolutionnaire. Et puis les sœurs du Saint-Sacrement dirigeront l'Hôtel-Dieu et assureront l'instruction des enfants dans l'école adjacente pendant 90 ans environ, à la grande satisfaction de tous. Vers les années 1800, en France, on discute laïcité. L'enseignement religieux est alors exclu de l'école publique, qui est fondée à l'époque de Jules Ferry, et l'école des sœurs devient laïque. En 1885, la commune souhaite construire un hospice civil et achète à cet effet un grand terrain de plus de 16 000 mètres carrés. En conséquence, les religieuses quittent l'Hôtel-Dieu pour rentrer à Romans. Elles seront remplacées par des institutrices laïques. Alors, de 1911-1933, les autorités construisent un hospice qu'on a appelé le Bel Hospice parce que c'était un bel immeuble de 3 niveaux et particulièrement spectaculaire à l'époque. Sur le nouveau terrain, ces constructions sont réalisées par l'entreprise Fago. On démarre en 1911 et ce sera terminé en 1921. Alors, ensuite, progressivement, l'Hôtel-Dieu et sa chapelle seront démantelés et on n'appellera plus l'hospice un hospice, mais on l'appellera maison de retraite. Donc, de 1946 à 48, on répare les dégâts qui ont été faits pendant la dernière guerre. On y installe des ascenseurs, on y installe des sanitaires, du chauffage central. Et puis, à ce moment-là, on peut dire qu'il y avait une capacité d'environ 40 lits. Avec des chambres de capacité variable, soit 4 personnes, 3 personnes, 2 personnes ou 1 personne. L'EHPAD, lui, a été créé en 1983, à l'époque où on ne souhaitait plus parler de maison de retraite. Et maintenant, cet EHPAD a été modernisé et comprend des ailes dédiées aussi aux maladies longue durée comme Alzheimer. Voilà où on en est.
Merci pour ce focus sur ces établissements emblématiques de Saint-Jean-Royan qui, justement, aussi bien, avait une certaine influence, comme le précisait Marie-France, sur l'ensemble du Royan, ce qui concerne voilà, ces deux structures. On poursuit, Marie-France, avec différentes strates historiques. Et là, cette fois maintenant, c'est oui, la contribution de Rémy.
Nous allons parler de l'eau potable. Alors, l'eau potable, surtout dans le village. La première fontaine connue est signalée par l'historien de la Croix en 1834. Il est fort possible que, par rapport à la fontaine monumentale d'aujourd'hui, elle soit été un peu plus sur la gauche, située vers le square du 29 juin. En 1848 à 1850, construction de la fontaine des Brous, qui se situait en bas de la rue Berthelot et de la rue de l'Industrie. Elle était située plus au centre de la rue. Elle a été déplacée aussi par la suite pour la circulation. Elle était aussi une fontaine monumentale. 1858 à 1866, construction de la fontaine monumentale qui existe toujours sur la place de l'église. Et là, effectivement, il y aurait beaucoup de choses à dire, notamment au niveau des signes. Tout le monde se pose la question, où est passé le quatrième signe? Le quatrième signe n'a jamais existé. L'ouverture qui est à la place du quatrième signe, on pense que on ne l'a pas fait pour que les troupeaux et le bétail puissent s'abreuver.
C'est le un côté pratique.
C'est fait. Le côté pratique de la chose. Mais peut-être qu'il y avait d'autres solutions, d'autres. Voilà. Elle a été éclairée, cette fontaine. Je pense que j'ai trouvé une photo en 1935 où, effectivement, il y avait trois réverbères sur le dessus, complètement. Elle a été faite en pierre de Rochechouart. Je pense qu'elle n'a jamais servi de lavoir. Ici, les lavoirs, de l'eau, il y en coulait un peu de partout. Oui. Et les lavoirs étaient très individuels. Donc, on n'a pas plus d'informations là-dessus. Il semblerait qu'il y ait eu un lavoir au pied de la descente du Cheval Blanc. Mais aucune information là-dessus. Ensuite, les bornes fontaines ont été installées en 1904. Donc ces bornes fontaines étaient en pierre. On en retrouve quelques-unes, mais pas à Saint-Jean, puisqu'elles ont bien été démolies. Vous pouvez en voir à Auriolles ou à Sainte-Eulalie, sur la place du village. La borne qui est une borne fontaine. Il y en a encore une, si je me trompe, au quartier du Cerf. Par la suite, en 1910, les fontaines Bayard. Alors, les fontaines Bayard, ce sont les fontaines que l'on voit encore un peu. Ce sont des fontaines en fonte qui ont été faites à Lyon par la fonderie Bayard. Oui. Fontaines à tourniquet ont été installées. Je pense qu'il devait y en avoir 25 à 30 dans tout le village. Donc, l'importance de récolter l'eau potable pour toute la population. De ce fait, il est certain que les immeubles n'étaient pas toutes pourvus d'eau potable. Elles n'avaient pas toute l'eau sur le robinet. Ensuite, il y a d'autres idées. Ça servait aussi bien aux animaux, certainement, qu'au lavage. Donc, c'était un point de rendez-vous, quand même. Comme les lavoirs. On en retrouve quelques-unes dans Saint-Jean, c'est-à-dire qu'il doit en rester 7. Une à la gare, 2 à la montée du Cheval Blanc. Une en bas, une en haut. Les Alliés, la montée de la piscine, le Cerf, place de la mairie. C'est tout ce qui nous reste. Ensuite, dans les années 30, les adductions d'eau particulières, effectivement, notamment aux écoles, aux maisons de retraite, bon, on voit l'importance que ça avait, ont commencé à partir de là. Pour ce qui est des captages et réservoirs, parce qu'il fallait bien que l'eau arrive de quelque part, tout le monde n'avait pas sa source. Bien que, comme je dis, ici, on donne un coup de pioche, il sort de l'eau. Les réservoirs, on en trouve quelques-uns qui datent. Et il y en a des plus récents, effectivement. Au Bernerie, à Carpa, la source de Frochet alimente le réservoir de Carpa. Réservoir des Tourlons. Sur la rive gauche, les Gamons qui alimentent aussi le réservoir des Chuiles. Je vais revenir sur la fontaine monumentale. Il existe sur le Cerf une grande serve. Je pense que l'eau qui alimente la fontaine de la place sort de là. Mais après, on n'a pas plus d'informations. Alors, si à l'occasion, vous avez plus d'informations, vous pouvez y aller, on est preneur.
Voilà pour cette fontaine monumentale, donc située place de l'église à Saint-Jean en Royan. Merci beaucoup Rémi pour ce focus à propos ce circuit d'eau et puis toutes ces ressources en eau de la commune de Saint-Jean en Royan. Marie-France ?
Oui, alors je vais terminer notre exposition par la maternité. Nous avons essayé de retracer l'histoire de cette maternité. Elle a été créée en 1949 par le docteur Gutin. C'est une maison qui se trouve sur la route de Rochechinard, à gauche, juste avant le petit pont sur la Lyonne. Ce bâtiment, lorsqu'il a été créé, avait 12 lits plus une chambre pour le service et la sage-femme. Au départ, le docteur Gutin n'habitait pas sur place. Il suivait ses patients depuis leur cabinet. Il y avait simplement une sage-femme qui surveillait la nuit en permanence, Madame Planet. D'une manière générale, il y a toujours eu des lits occupés. Les gens venaient d'assez loin. Hein. Il n'y avait pas que les gens du Royan, Villard-de-Lans, Saint-Julien, Saint-Martin, La Chapelle, Méaudre. Et les mamans, à ce moment-là, restaient environ en moyenne 15 jours dans la maternité. Il y a eu aussi dans cette maternité des petites opérations bénignes qui sont faites comme les hernies, les appendices. Eh bien, elles étaient faites à la maternité. Le docteur Gutin, effectivement, en profitait pour faire sa petite chirurgie car il était installé dans la rue Pasteur, mais il était mal installé. Et par exemple, il ne pouvait pas faire des plâtres dans son officine, dans son cabinet. S'il y avait par hasard un problème de césarienne, par exemple, les patientes partaient pour l'hôpital, hein, ne restaient pas à Saint-Jean. Donc la maternité tournait bien. Il y avait en moyenne 150 accouchements par an. Et puis petit à petit, eh bien, ça ne suffisait plus. Dans les années 1950-1960, pour des raisons d'hygiène, pour toutes ces raisons, on a demandé des aménagements. Et le docteur Gutin n'a pas pu faire tous ces aménagements pour des questions financières. Il a donc dû fermer. Quand il a quitté Saint-Jean en 1956, il y a eu plusieurs personnes, plusieurs candidats pour son poste, plusieurs médecins. Mais chaque fois, il voulait céder la maternité, mais il n'a jamais retrouvé de repreneur. Le docteur Terjman, quand il est arrivé en 1956, s'est occupé de la maternité, mais il n'y a pas habité. Donc, tout ça a duré jusqu'en 1961. Et en 1961, la maternité a fermé définitivement. Voilà l'histoire de la maternité de Saint-Jean.
Où bon nombre de bébés royanais sont nés, hein, des générations encore qui sont...
Tout à fait. Nous avons une photo d'une classe scolaire. Et sur cette photo, nous avons indiqué il y a peut-être environ la moitié des enfants qui sont nés à la maternité de Saint-Jean. Enfin, tout ça sera beaucoup plus détaillé à l'exposition, bien entendu.
Voilà justement l'objet de rappeler cette exposition, sa tenue, et bien rappeler les dates.
Voilà, les dates, c'est le 20-21 septembre. C'est ouvert de 10h jusqu'à 17h en non-stop. Et nous ne sommes pas tout seuls cette année pour faire cette exposition. C'est la raison pour laquelle nous l'avons fait à la parenthèse. Parce que nous sommes accompagnés par un groupe de peintres qui ont décidé de peindre sur Saint-Jean-Royan. Mais je vais laisser la place à Louis-Paul.
À Louis-Paul, d'harmoniser ces contenus d'histoire, de patrimoine avec le côté artistique. D'ailleurs, Louis-Paul Parma a pu nous montrer déjà un exemple de ce qu'il a pu repérer comme édifice remarquable à Saint-Jean-Royan.
Personnellement, je fais partie de l'association du patrimoine de Saint-Jean-Royan, mais également de l'atelier pictural de La Paz. Et lorsque j'ai su que le patrimoine allait faire une exposition sur Saint-Jean, j'ai proposé de mettre des toiles et des aquarelles lors de leur exposition. Et j'ai récupéré des toiles, notamment deux d'André Laforêt. Et il y aura une exposition de 9 peintres, mais je crois que c'est moi qui serai en majorité.
Alors, qu'est-ce qui a pu intéresser le côté artistique dans ce cadre patrimonial? Savoir, eh bien, peut-être mettre des maisons en lumière.
Bien, je suis parti d'abord de cartes postales et j'ai refait en peinture à l'acrylique des cartes postales anciennes, mais qui seront colorées. Puis j'ai fait des tableaux et des aquarelles à partir de mes photographies, mais d'éléments parfois de détails. Notamment en haut de la rue Jean Jaurès, il y a un balcon qui a un aspect art déco. Et j'ai fait une aquarelle là-dessus.
Alors, quand vous parlez d'art déco sur un balcon, c'est la structure du balcon, sa matière qui fait art déco, qu'est-ce que...
Mais c'est-à-dire, c'est l'aspect, oui. C'est un balcon qui est en béton.
En béton, oui.
Mais l'aspect, c'est le style art déco.
Voilà. Comment on peut retrouver aussi en face, à côté de la poste, il y a un immeuble où on voit des...
Oui, des balcons aussi en béton.
Oui.
Il y aura d'ailleurs, un autre groupe qui a refait ce bâtiment.
Oui. Et donc, vous avez peint ce balcon avec la maison, hein, c'est ça?
Oui, hein puis moi, je cherche les détails aussi. Par exemple, j'ai la porte où il y a la pharmacie, place de l'église, qui était entrebâillée. Je l'ai prise en photo et j'ai rajouté une petite fille qui sort par là. Vous voyez, sur la toile de... La place de la mairie, des maisons qui sont en face de l'église, j'ai rajouté des personnages. Sur une toile de la gare, j'ai rajouté une charrette qui était sur une autre carte postale. Mais ça, vous le verrez en venant visiter l'exposition du patrimoine et vous verrez les toiles. Et il y aura 9 peintres en tout. Alain Schmid, il y a Jean Reynaud qui va nous présenter 2 toiles à l'encre. J'ai Madame Caillot qui va mettre 4 acryliques. J'ai une toile de Paul et de Pierre Bell. Et j'en ai 2 de Françoise Bosset. Et je vous disais tout à l'heure, 2 qui m'ont été prêtés par Jean-Daniel Laforêt, 2 aquarelles de son père.
Voilà, les peintres royanais que l'on pourra donc découvrir avec votre contribution dans la salle de la parenthèse, c'est 20. Et 21 septembre, lors de ces journées européennes du patrimoine. Bien, merci beaucoup à toutes et tous pour cette présentation de l'association Royan d'hier et d'aujourd'hui.
Merci.
Marie-France, merci beaucoup.
Merci à la radio de nous avoir reçus.
Avec plaisir. Et puis, il reste à découvrir tout cela. Donc, à Saint-Jean-Royan, dans la salle La Parenthèse. Précisons d'ailleurs que c'est aussi un côté historique, cette salle La Parenthèse, puisque c'était l'ancienne salle des fêtes aussi. Et puis, qu'il y a eu un peu du mouvement pendant la guerre dans ce coin-là aussi. Il y a eu du chamboulement. Merci, à bientôt.
À bientôt. Merci.